Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
Good Morning Business, le grand entretien.
Et notre grand entretien aujourd'hui, c'est avec Éric Vallat, directeur général de Rémy Cointreau. Rémy Cointreau qui signe une année de tous les records. Bonjour, merci d'être avec nous. Année de tous les records et puis pricing power. Ça, vous êtes quand même un exemple de boîte qui arrive à augmenter les prix. Il n'y a pas d'effet sur les volumes. On vous suit. Ça, c'est quand même sympa.
Oui, alors c'est aussi ce qui nous rend modestes parce que cette pricing power, elle vient de 300 ans d'histoire, de préservation de savoir-faire. On a la chance d'hériter des générations précédentes de véritables pépites. Et c'est vrai que porté en plus par des tendances qui consistent à boire moins mais mieux, on signe une année de tous les records en termes de chiffre d'affaires, en termes de marge brute, en termes de résultats opérationnels. Et j'ai même envie d'ajouter que c'est la troisième année consécutive record, qui fait qu'aujourd'hui, on a changé de catégorie. Il y a trois ans, on faisait à peu près 1 milliard de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on en fait plus d'1,5 milliard. On a une marge opérationnelle qui a gagné 5 points, une marge brute 4 points, qui est très importante pour financer nos investissements. Les investissements d'aujourd'hui sont la croissance de demain. C'est vrai qu'on a fait un plan à 10 ans il y a 3 ans. J'ai fait des plans à 10 ans depuis 30 ans et c'est la première fois de ma vie qu'on est en avance sur notre plan. Alors qu'en général, on est toujours en retard. Le plan, c'est le rêve.
Alors, on va parler... Vous essayez de comprendre pourquoi les marchés étaient un peu déçus hier. On va revenir dans quelques instants. Mais puisqu'on est sur la stratégie, effectivement, de pricing power et de premiumisation, la question, c'est est-ce que Rémy Cointreau est en train de devenir un groupe de luxe? Vous avez lancé un cognac, le Louis XIII, à 50 000 euros la bouteille, un parfum à 6 000 euros le flacon. Est-ce que vous vous mettez dans les calls maintenant? Est-ce qu'il faut rajouter un R au call, c'est-à-dire au Kering, L'Oréal, LVMH?
Non, alors on n'oubliera jamais qu'on est un groupe de spiritueux. Et c'est important, c'est ce qui nous définit. Hein. Je viens du monde du luxe et il y a, je pense, beaucoup de traits communs dans les savoir-faire, dans l'exigence de qualité, la recherche de l'exception. Mais on est aussi un groupe de spiritueux et les spiritueux, c'est vrai que c'est des produits de célébration, des produits de partage. Donc c'est un monde, un rapport au monde qui est différent. Donc on est les deux, j'ai envie de dire. On est un groupe un petit peu atypique qui est à la fois un groupe de spiritueux et qui est en même temps un groupe de luxe parce qu'on a la chance d'être défini d'abord par une marque qui s'appelle Louis XIII, qui est peut-être la seule vraie marque de luxe du monde des spiritueux et qui nous permet de porter plus loin nos actions sur ces produits-là.
Avec des produits à 50 000 euros la bouteille.
Avec des produits à 50 000 euros la bouteille et même on a fait plus dans le passé. On vient de sortir effectivement une édition limitée.
Et c'est quoi ce parfum à 6 000 euros? Qu'est-ce qu'on met dans un parfum à 6 000 euros? De l'or, du diamant?
Alors merci pour cette question parce que j'aime souvent dire que ce qui définit un produit de luxe, c'est pas son prix. Le prix, c'est la conséquence. Une marque de luxe, une marque d'exception, d'ailleurs, que je préfère comme terme.
C'est maison psyché à votre parfum.
Oui, tout à fait. C'est d'abord un produit de très grande qualité, une marque aspirationnelle et puis une expérience hors du commun. Et en fait, maison psyché, c'est ça. On a créé un nouvel artisanat dans le monde de la parfumerie. On a associé les savoir-faire de deux mondes, celui des spiritueux et de la parfumerie. Et en fait, on a fait vieillir les essences les plus rares et les plus belles. Et il se passe exactement ce qui se passe avec nos eaux de vie quand elles vieillissent dans nos fûts à cognac. Elles sont magnifiées, les notes de tête deviennent les notes de cœur et la colonne vertébrale est renforcée. Donc on a créé de nouvelles essences.
Alors tout ça, ça aurait dû faire monter votre cours de bourse hier. Raté, il a chuté d'un peu plus de 3%.
3,8%,
ouais. 3,8% de mémoire. Qu'est-ce qui n'est pas passé auprès des investisseurs? C'est le problème de la dette. Elle est beaucoup plus élevée qu'attendue. 536 millions d'euros. C'est ça qui pose problème? Les investisseurs se focalisent là-dessus?
Ah non, absolument pas. Je pense qu'on a un ratio A, donc un ratio de dette qui est très faible, hein, qui est un de nos plus faibles historiques aussi.
Mais
donc,
vous notre savez, situation toujours financière... quand c'est pas prévu, ça inquiète toujours les marchés.
Non, mais notre situation financière est excellente. On a un ratio A extrêmement faible, donc on a même une capacité à lever de la dette encore s'il le fallait. Hein.
Alors vous êtes incompris par les investisseurs?
Je pense que c'est plus le fait que d'abord le cours de l'action a beaucoup monté au cours de ces trois dernières années et que par ailleurs les investisseurs ont un horizon de temps qui n'est peut-être pas le nôtre. On a annoncé en fait hier, en même temps que des résultats records qui ont surpris positivement, on a annoncé une année de transition. C'est peut-être ça qui a
joué.
Avec un tassement, notamment l'activité aux États-Unis au premier semestre. C'est
oui,
ça
parce
qui les a
nous,
un peu inquiétés, quoi.
Voilà, la transparence, c'est très important pour nous. Et en fait, moi, j'appelle pas ça un tassement. J'appelle ça une normalisation de la consommation. Faut pas perdre de vue qu'aux États-Unis, au premier trimestre de l'année dernière, on a fait plus 185% par rapport à 2019.
Ah oui. Et par rapport à l'avant-pandémie.
Oui, par rapport à l'avant-pandémie.
Ah oui.
Alors, sur une moyenne de progression à 58%, ce qui veut dire que le deuxième semestre sera beaucoup moins fort en croissance. Mmh. Les comparatifs n'auront rien à voir. Donc, il y a une part mécanique dans tout ça qui est extrêmement importante. Mais on a tenu à être transparent et à le dire. Et ce qui est important de noter, c'est que le premier trimestre de l'année dernière, ce qui fait que ce chiffre d'affaires était très important, c'est pas uniquement la demande, c'est qu'on terminait les exercices précédents en rupture à chaque fois, tellement la demande était élevée. Et donc, en début d'exercice, on remplissait les tuyaux et les produits partaient très vite. Mais si on regarde une vente normalisée sur l'année, on n'est pas du tout sur ces tendances-là.
C'est pas la concurrence de la tequila aux États-Unis parce que ça devient une mode. Alors il y a toujours des modes, mais il y a des bars à tequila, ça devient important. Vous n'avez pas de marque de tequila, peut-être que vous regardez pour la croissance externe, mais il y a une petite concurrence là.
Oui, il y a beaucoup de concurrence de toute façon sur les spiritueux bruns haut de gamme. Là, j'ai envie de vous répondre deux choses quand même. D'abord, effectivement, la tequila, il y a un effet de mode. Le cognac en a connu des effets de mode. Il est toujours revenu parce que le cognac, il est intemporel. Donc, on n'est pas particulièrement inquiet. La deuxième chose, mais c'est une réalité, en revanche, que la tequila a très fortement progressé et qu'elle s'intéresse aussi à des clients de spiritueux bruns haut de gamme. Maintenant, la tequila aujourd'hui se normalise aussi. Donc, je considère qu'on n'est plus dans un contexte de perte de part de marché aujourd'hui. On est au contraire dans un contexte de reconquête. Mais surtout, les cognacs, c'est seulement 6% des spiritueux consommés aux États-Unis. Et 25% des clients de spiritueux bruns haut de gamme seulement boivent du cognac. 25% d'entre eux en plus considèrent boire du cognac. Donc dans le futur, donc les opportunités restent légion. À nous d'aller les chercher. Avec la tequila en plus, mais qui attaque plus l'entrée de gamme. Mmh. Et nous, on n'est pas dans l'entrée de gamme.
Tout à l'heure,
on commence au grade VSOP, c'est 4 ans. L'entrée de gamme commence au grade VS, 2 ans d'âge. Nous, on est au-dessus, donc on est un petit peu moins attaqué par rien.
Tout à l'heure, vous parliez de la temporalité des investisseurs. Vous disiez, nous, on regarde à long terme. Parce que vous êtes une entreprise familiale, ça change un peu la donne. Les Dubreuil qui ont toujours 55% du capital. Ça change la manière, vous venez d'autres groupes de luxe, ça change la manière dont on investit et dont on regarde la temporalité, les perspectives.
Alors moi, j'ai toujours travaillé pour des familles actionnaires.
Ouais.
Et ce que je peux vous dire, fort de cette expérience-là, en tout cas, c'est que ça change les choses à 3 niveaux pour moi. Et ils sont tous les 3 très importants. Le premier niveau, c'est qu'une famille actionnaire de référence, parce qu'elle n'est pas seule actionnaire, mais de référence, ça donne un cap. Et ça donne de la cohérence dans le temps. Moi, dans 15 ans, je serai à la retraite. La famille, elle sera toujours là. Donc ça, c'est très important. Et ça définit qui nous sommes en termes de stratégie. Je n'ai pas inventé la stratégie de Rémy Cointreau. Ça fait 100 ans qu'on est dans une stratégie de valeur. Alors certes, la famille a fait le choix de ne pas diriger, mais il y a une cohérence. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, que je trouve également très important, c'est qu'on a des valeurs très fortes, axées autour des terroirs, des hommes et du temps, et que ces valeurs, elles ne sont incarnées et elles ne sont crédibles que si elles sont incarnées et vécues par une culture. Une culture forte d'entreprise qui soit cohérente. Et la culture, nous, elle est héritée de cette culture familiale. Donc ça donne aussi, ça l'incarne et ça lui donne un vrai ancrage. Et la dernière chose, c'est le rapport au temps. Quand on veut construire des marques de luxe, il faut du temps. Louis XIII est la plus belle marque pour le dire, puisque la plus jeune des eaux de vie a 40 ans. Et certaines ont plus de 100 ans. Donc il faut du temps pour faire Louis XIII. Et on avait même notre distillateur, maître distillateur de Manguet qui disait « C'est prêt quand c'est prêt, jamais avant ». Donc, moi, je viens de la mode.
Le maître distillateur qui, généralement, goûte pas ce qu'il a mélangé.
Alors ça, c'est chez Rémy Martin.
Ouais.
Là, chez Manguay, qui est notre rhum haut de gamme, là,
ah oui,
c'est
le cas,
en revanche. Mais ouais, ça vieillit un peu moins longtemps. Mais moi qui viens de la mode, je trouve ce rapport au temps tout à fait incroyable. Il n'est possible que parce qu'on a une famille. J'ajoute juste que être coté n'est pas inintéressant si on trouve le bon équilibre, parce que ça ajoute une petite touche quand même d'urgence.
D'urgence, ouais.
Et c'est que si on trouve le bon équilibre entre les deux, c'est pas mal.
Un mot de la Chine, on a eu des inquiétudes sur le redémarrage chinois. Comment vous voyez là la consommation chinoise repartir?
Alors moi je suis très optimiste, donc j'entends des nouvelles macroéconomiques plus ou moins mitigées sur la reprise en Chine. Moi, je vois.
Vous avez travaillé en Chine, non?
Je travaille au Japon. Et puis, évidemment, je passe beaucoup de temps en Chine. Ouais. Et j'y suis déjà retourné, évidemment, et j'y retourne la semaine prochaine. En revanche, ce que je peux vous dire, moi, sur la Chine, c'est que même si peut-être qu'il y a des nouvelles que l'on peut entendre qui sont plus ou moins mitigées, nous, on est très confiants. Pourquoi? D'abord parce que ce que les gens sous-estiment, c'est qu'à l'inverse des groupes de luxe qui sont dans le retail, qui ont des magasins, qui ont bénéficié du rapatriement de ces clients qui achetaient dans le monde entier en Chine, nous, on n'a pas bénéficié de ça, puisqu'on est commodity good, et donc les clients achetaient, ont toujours acheté chez nous en Chine, donc on n'a pas bénéficié particulièrement de Covid, et on n'est pas particulièrement impacté négativement. Mais surtout, il y a la réouverture du on-trade. Le on-trade, c'est l'endroit où les gens achètent dans les bars et le consomment sur place. Les bars, les restaurants, les boîtes de nuit. Ça, c'est en train de rouvrir. Pour nous, on a vécu 3 ans avec le on-trade fermé. Et le on-trade, c'était 45% de notre chiffre d'affaires. Et la dernière chose, c'est qu'on a relancé il y a 7 ans un produit qui s'appelle Club, qui pèse très lourd en Chine, qui est au-dessus de VSOP. La Chine est un pays d'abord de cognac. Et ce pays, cette référence-là, ce produit-là, cartonne, gagne des parts de marché. Donc nous, on est très confiant sur une année en croissance à deux chiffres très soutenue en Chine.
En tout cas, tous les grands patrons retournent en Chine. On a vu Elon Musk, Jamie Dimon, Bernard Arnault. Vous allez
croiser. Je suis ravi d'être comparé à Elon Musk.
Vous allez croiser Bernard Arnault parce que lui aussi va en Chine dans les prochains jours. Merci beaucoup, Eric Vallat, directeur général de Rémy Cointreau, d'avoir été notre invité.